Bien, bonjour. Alors, pour commencer, aujourd'hui, pour les Iraniens, pour les gens d'Asie centrale et puis pour tout le monde, je souhaite un petit peu en avance, deux jours en avance, le Nowruz, le nouvel an zoroastrien, qui tombe maintenant, effectivement, à peu près à l'époque de l'équinoxe de printemps. Dans le passé, ça bougeait davantage. Ce n'est pas hors de propos par rapport au cours sur le Khorezm, puisque il y a Biruni fait état de traditions originales sur la célébration du Nowruz au Khorezm. Et puis, on a maintenant des évidences, une évidence épigraphique. Je serai amené à en parler ultérieurement. Et par ailleurs, c'est probablement le cycle du Nowruz est probablement l'une des clés qui permet de comprendre le décor peint de la capitale du Khorezm, Akhchakhankala, que je vais présenter probablement la prochaine fois ou la fois d'après. Voilà. Alors, nous avions examiné un certain nombre de sites représentatifs de la première période, disons, de proto-urbanisation, puisqu'on n'a pas encore de véritable ville du Khorezm, qui est donc, selon Tolstov, la période dite, enfin, qui correspond à peu près chronologiquement à la période achéménide en Iran, qui correspond aussi au moins à certains moments à une forme d'emprise, enfin, une forme de contrôle de l'empire achéménide. Difficile à définir plus précisément. Donc, c'est la période que Tolstov appelait archaïque, que maintenant, avec Minardi, j'appellerais plutôt antique 1. Et je vais en venir maintenant à la période qui suit, qui est donc, selon Minardi, la période antique 2, qui couvre les 3e, 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, donc correspond chronologiquement au moment où l'hellénisme est présent dans les royaumes plus au sud. Et nous allons voir que ça se ressent dans une certaine limite sur les sites du Khorezm. Alors, pour cette période, Tolstov avait adopté une dénomination qui peut paraître un peu curieuse, il l'appelle Kankyu. Alors, qu'est-ce que le Kankyu? En fait, selon les sources chinoises, c'est une confédération nomade qui était plutôt centré, disons, sur le Sirdaria et une partie sud de l'actuel Kazakhstan, et qui, dans les siècles suivant la disparition de la domination grecque, a dominé les principautés, disons au moins les principautés sogdiennes, Samarcande Tchatch qui va devenir Tashkent, etc. Alors, la dénomination Kankyu, adoptée par Tolstov pour le Khorezm, n'est quand même pas très heureuse. Et disons maintenant, on tendrait à l'abandonner pour deux raisons. D'abord, parce que chronologiquement, le Kankyu dans les sources chinoises apparaît plutôt au IIe siècle qu'au IIIe. Et puis, par ailleurs, on n'a pas véritablement d'indice net d'une intégration du Khorezm dans la fédération du Kankyu. Je dirais que la dénomination Kankyu est beaucoup plus pertinente s'agissant, par exemple, de Samarcande. Et c'est celle que je vais conseiller d'adopter pour la présentation des céramiques de cette période. Parce que là, véritablement, oui, on a des indices qui avaient une... Et Pavel Lourier les a rappelés dans sa conférence avant-hier. On a l'indice que, au moins, enfin, dans le vocabulaire aristocratique, le vocabulaire politique, il y a des indications d'une influence de cette confédération nomade, disons entre guillemets Alano-Sarmate, sur la culture sogdienne au sud. Pour le Khorezm, on n'a pas véritablement d'indice. Je vais commencer par un site qui est énigmatique, c'est le cas de beaucoup de sites au Khorezm. Alors voilà donc la carte que propose Minardi pour cette période ex-Cancu, maintenant antique 2. Alors, vous voyez que le réseau des forteresses, plutôt en périphérie du Choresme, continue à se développer, mais on voit maintenant ce qu'on n'avait pas à la période précédente, des sites bien individualisés dans la partie centrale, hein, près de la Moudaria qui coule là, et un certain nombre de sites qui sont intéressants, auxquels je vais faire un sort particulier aujourd'hui, qui sont sur vraiment la frontière, la limite extrême au sud, donc au contact le plus proche possible des royaumes grecs. Le premier site dont je vais parler, c'est Kalalegir 1, qui est un site de rive gauche. Voilà, il est ici. Tout près, en fait, de Kyuzeligir, le premier site proto-urbain, disons, du Choresme qu'on avait vu la dernière fois. Kalalegir est un site vraiment important et en même temps qui pose des gros problèmes à la fois de chronologie et de fonctionnalité. Il est important parce que pour Tolstov, c'était la résidence du satrape achéménide du Choresme. Voilà. Alors, je vais vous expliquer sur quels indices Tolstov s'est basé. On n'y croit plus du tout aujourd'hui. Et à vrai dire, on est même plus sûr que ce site est bien contemporain de l'époque achéménide. Minardi pense qu'en réalité, le matériel retrouvé indiquerait plutôt une date post-achéménide, 3e, 2e siècle de notre ère. Alors, c'est un grand site, hein, c'est même l'un des plus grands sites du Choresme, avec 77 hectares, mais pas plus que les sites que nous avons précédemment examinés, ce n'est une ville. Ou du moins, ça avait peut-être prévu pour l'être, mais ça n'a jamais été construit. La seule zone construite, c'est ce massif à l'ouest qu'on a pris l'habitude d'appeler le palais, avec d'ailleurs certains arguments. Par rapport au site précédent, on voit que l'art de la fortification se développe. L'enceinte est jalonnée de tours rondes, très rapprochées. Le site est muni de 3 entrées en barbacane. Ça va devenir un trait assez systématique des fortifications du Choresme à partir de cette époque. Le rempart est creux, comme il l'était à Kyuzeligir, et donc a donné lieu, de la part de Tolstov, la théorie dite des murs habités. La population qu'on ne voit pas à l'intérieur de cette enceinte aurait habité dans les murs. Je l'ai dit la dernière fois, c'est une théorie quand même maintenant beaucoup battue en brèche, quoiqu'on a des indices, notamment à Samarcande, de ce qu'à certains moments, effectivement, les corridors des remparts pouvaient servir d'abri à la garnison. Pour expliquer le fait que cette très grande enceinte soit restée vide, il y a évidemment deux possibilités. Soit il était prévu de la construire et puis ça ne s'est pas fait, pour des raisons qui nous restent inconnues, ou alors ça n'avait jamais été prévu pour être construit, et à l'instar, par exemple, du site de Kyuzeligir qu'on a vu la fois précédente, ce serait plutôt une enceinte refuge, c'est-à-dire qu'elle était prévue pour abriter la population rurale environnante en cas de danger, et la population et les troupeaux. Des hypothèses qu'on peut continuer à faire pour des sites qu'on peut faire pour des sites de la même époque plus au sud, par exemple le site de Samarcande, Afrasiab, il est évident qu'au moins à l'époque achéménide et sans doute plus tard à l'époque hellénistique, il n'a jamais été densément bâti, il était surdimensionné par rapport à la population permanente qu'il abritait, et bien évidemment c'était destiné à servir en cas de danger. Alors, ce qui est vraiment complètement nouveau dans ce site, dans la zone dite du palais, que voici, vous voyez, une architecture bien régulière, avec des salles, alors visiblement, des salles d'apparat, hein, il y a des grandes cours, il y a des appartements privés, c'est pas sans rappeler mais sans du tout la même régularité symétrique, les résidences aristocratiques coloniales grecques qu'on a à Ichanoum. Bon, les colonnes sont en bois et reposent sur des bases en pierre. Alors, on avait déjà des colonnes dans les sites de l'époque précédente, hein, des Kyuzeligir et Gingilje, mais là, pour la première fois, on voit apparaître des bases en pierre. Ça va continuer au Corée. Ces bases vont continuer à être, disons, sinon produites, du moins réutilisées, parce qu'on voit que de site en site, en fait, on voit que les bases sont récupérées. Bon. La forme de ces bases, alors c'était un des arguments de Tolstov pour y voir vraiment une résidence achéménide, il la pensait de type perse-achéménide, persépolitain. Alors on sait maintenant que c'est bien un type de base qui se trouve en Iran achéménide, notamment à Persépolis, mais à l'époque post-achéménide. Et c'est caractéristique d'un bâtiment qui a été construit sur la terrasse de Persépolis, mais dès après la fin de la domination achéménide, et probablement aussi après l'arrêt assez rapide de la domination grecque dans la zone, une résidence qu'on a appelé le temple des Frataraka, c'est exactement le même type de base, et c'est déjà post-achéménide. Et alors, surtout, ce qui est tout à fait sensationnel et inattendu, c'est la découverte de ce moulage en plâtre d'une tête de griffon qui copie bien évidemment le type des griffons de l'architecture achéménide. Alors, il a perdu son oreille, mais évidemment, il l'avait. Ça, c'est un griffon de Persépolis. Et voilà le moulage de Kalaleger. Ça, c'est un type de poignée d'épée en ivoire qui a aussi une tête de griffon et qui est achéménide. C'est de l'art achéménide destiné à être reproduit. Alors le problème, reproduit comment ? Les restitutions qui ont été publiées pour ce qu'on appelle donc le palais montrent donc sur ces bases de colonnes en pierre des fûts en bois. Il n'y a jamais eu de colonne avec des fûts en pierre au Chorèsme à l'époque ancienne. Et en haut, on a restitué des chapiteaux jumeaux avec. Bon, on ne peut pas voir, enfin, ce n'est pas net en raison de la petitesse de l'image, mais c'est là-haut que, suppose-t-on, on mettait la copie du type de griffon. Alors. Ces chapiteaux n'ont pas été retrouvés, donc on a juste le modèle en plâtre qui aurait dû permettre de les fabriquer. On ne sait pas si c'est une virtualité, si c'était prévu pour être comme ça, ou si ça a été vraiment sculpté et déménagé. C'est aussi une possibilité. Alors, ça pose quand même un problème, c'est que normalement, sur des colonnes en bois, on ne met pas des chapiteaux en pierre. Bon, ça peut arriver dans l'architecture des mosquées. On voit parfois, effectivement, sur des fûts en bois, il arrive qu'il y ait des petits chapiteaux en pierre. Mais des gros chapiteaux massifs, très lourds, de type persépolitain, ça paraît assez peu vraisemblable. Bon, on peut aussi imaginer que... Le modèle était destiné à être reproduit dans un autre matériau que la pierre. En raison de cette découverte, Tolstov a supposé que non seulement ça copiait des éléments de décor d'un palais avec des palais achéménides, mais que c'était un palais achéménide. Et donc, ça aurait été le palais du satrape, puisque Tolstov pensait... que le Chorèsme, mentionné dans la liste des peuples soumis dans les inscriptions achéménides, avait eu un satrape. On sait maintenant que le Chorèsme n'a jamais formé une satrapie. C'est une région soumise, mais qui, comme la Sogdiane, était probablement administrée depuis la satrapie de Bactriane. Autre hypothèse de Tolstov, comment expliquer l'inachèvement de la construction, c'est que le Chorèsme se serait libéré Voilà, avant que le satrape Achéménide ait pu véritablement construire sa ville et même finir son palais. Alors, on a dit, par exemple, voilà, on a supposé que le palais était vraiment tout neuf quand il a été abandonné, parce que vous voyez ici, sur cette vieille photo de fouille, les mâts des marches qui sont maçonnées en briques crues et qui n'en sont pas moins intactes. Des marches en briques crues ou en parsin, en pisé, ça s'use très vite. Alors, bon, mais l'argument n'est pas très convaincant parce que les marches, ça se refait. Bon, voilà. Alors, bon, on sait maintenant que il y a jamais eu de satrape Achéménide au Chorèsme. Il y a vraisemblablement non plus jamais eu de guerre de libération. On voit que jusqu'à la fin de l'époque achéménide, enfin jusqu'au milieu du IVe siècle, les Corasmiens sont mentionnés dans les inscriptions. Si on ne les voit pas combattre dans les armées qui sont opposées à Alexandre, c'est peut-être tout simplement parce que c'était des petits contingents qui ont été confondus avec les contingents d'autres peuples d'Asie centrale. Par ailleurs, Minardi, réexaminant le petit matériel et notamment la céramique, mais là, bon, je suis pas. Il faut vraiment un nouvel examen des planches qui sont données. Considère comme impossible une date antérieure au IIIe siècle. Donc, comment interpréter tout ça? Eh bien, il y aurait une espèce d'effet décalé de l'art achéménide. On a des indices de ce qu'effectivement en Iran, on a continué à fabriquer de l'achéménide à l'époque post-achéménide. Enfin, à vrai dire, on a fait aussi beaucoup d'achéménide au XIXe siècle, et les archéologues sont très très démunis aujourd'hui devant certaines pierres sculptées dans le Fars pour savoir si c'est de l'achéménide ou du Qadjar. Non. Enfin, sans aller aussi loin, bon, voilà, l'idée, ce serait que on aurait un écho décalé du prestige de l'art de la Perse achéménide dans ce qu'on considérait à ce moment-là comme une résidence aristocratique de la période suivante. Alors, sur cette même période, du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, les sites publiés donnent des impressions qui sont parfois assez contradictoires. Et à la fois, en ce qui concerne l'architecture, on voit que c'est vraiment pas les mêmes modèles qui sont reproduits dans les différents sites. En ce qui concerne aussi les affiliations culturelles, alors Minardi, toujours lui, a une formule assez heureuse. Il dit « pour la période ancienne, au Chorèsme, la diversité est la norme. » Voilà, on a l'impression d'une espèce de recherche de compétition, de recherche d'originalité. Des sites qui, visiblement, sont apparus à peu près au même moment n'obéissent pas aux mêmes, ne suivent pas les mêmes modèles. Alors, je vais... en venir maintenant, alors, avant d'aborder justement la question des influences hellénistiques qu'on perçoit dans certains sites frontaliers à cette même époque, je voudrais faire un sort à un autre site de cette même période qui est en fait qui est intéressant à plusieurs égards, qui s'appelle Jambas Kala. Voilà, écrit là. Alors, c'est une espèce de Kalaligir en miniature. Vous voyez, il n'y a pas trois barbacanes, il y en a une, voilà, mais il y a un plan rectangulaire. C'est beaucoup plus petit, puisque Kalaligir fait 70 hectares et Jambas Kala fait 3,4 hectares. Ce n'est pas une ville, c'est un fort. Et un fort frontalier, et même très frontalier, puisqu'il est ici. C'est-à-dire sur une branche de canal. Enfin, canal. Ces canaux du Chorèsme sont des recreusements d'anciens bras de delta. Une branche extrême qui n'a plus été occupée aux époques ultérieures. La vie s'est concentrée ici Et ces branches de canal en avancée n'ont plus été utilisées. Donc visiblement, c'est un fort frontalier. Alors, le site mérite qu'on s'y arrête un peu parce que il a été exploré dès 1939, dès les débuts de la mission du Khorezm. Et je crois pas réexploré depuis. Il a peut-être été assez rapidement détruit. Et en fait, c'est sur ce petit site que la mission s'est fait la main, à la fois pour la méthode, qui était donc un relevé de surface avec des complété par des sondages très limités, et également, ce qui est intéressant, par l'application de schémas interprétatifs. Et j'ai évoqué la dernière fois ce qu'étaient les schémas interprétatifs marxistes de Tolstov. Alors, le site fait donc 200 mètres sur 170. Du point de vue de la technique militaire, c'est la même chose. C'est assez proche de Kalalegir. C'est un rempart creux, à étages, avec barbacane. Mais là, un nombre absolument considérable de meurtrières. En fait, il y a des centaines de meurtrières espacées d'un mètre trente. Ça ne se voit pas sur ce plan ici, mais sur les relevés plus précis, c'est par groupe de trois. C'est-à-dire que chaque archer sert trois meurtrières dans une petite embrasure, une en face et deux qui partent en diagonale. Et ça va se retrouver très longtemps dans l'architecture militaire de l'Asie centrale. Il n'y a pas de tour. Et évidemment, la grande différence avec Kalalegir, elle saute aux yeux sur ce relevé, donc fait pratiquement sans fouille, c'est que c'est complètement construit à l'intérieur. Et construit d'une manière, semble-t-il, très homogène, à part ce massif à l'extrémité, opposé à la porte, sur lequel je vais être amené à revenir. En fait, on a voilà la restitution publiée dans Drevni Khorezm en 1948. On aurait une espèce de rue centrale, mais plutôt une esplanade d'une trentaine de mètres de large. Il y a mis des chameaux pour donner l'échelle, avec, disons, des alignements paris non réguliers. Et puis, de part et d'autre, des espèces de blocs massifs compacts aérés seulement par des courettes. Et surtout, Tolstov ne restitue aucune rue perpendiculaire. C'est-à-dire qu'on rentre directement de l'esplanade centrale dans une espèce de structure labyrinthique, avec des de type cellules d'abeilles, où on passe d'une pièce à l'autre, et dont l'unité, selon Tolstov, l'unité de base, l'unité immobilière de base, c'est la pièce unique qui peut faire de 10 à 30 mètres carrés. On voit donc tout de suite que... On a dit parfois, on détecte déjà là l'influence de l'urbanisme grec. C'est déjà un peu le plan hippodamien, hein, bien rectangulaire, avec la rue axiale. Mais non, puisque y a pas de rue latérale. Alors, évidemment, est-ce qu'aujourd'hui, on restituerait les choses comme ça? À mon avis, non. On fouillerait davantage, et puis... ce type de schéma paraît assez invraisemblable. Il est vraiment difficile d'imaginer que ce réseau de courettes intérieures et de blocs d'habitation n'ait pas été parcouru par des venelles. Alors, ce n'est pas évidemment des rues, ce n'est pas des rues à angle droit comme dans l'urbanisme hippodamien, mais il y a certainement un lacis d'impasses, de petites ruelles, etc. Et ce qui permet de le supposer, c'est un site un peu ultérieur du premier siècle de notre ère que nous avons examiné l'année dernière, Kampir Tepe, un site bactrien sur la Moudaria, où on voit effectivement, mais là, à la différence de Djambaskala, étudié sans fouille, ici, c'est complètement fouillé. Et on voit que, effectivement, on a des massifs très compactes dans lesquelles, par une étude méticuleuse des circulations, on individualise des groupes, des cellules de 2-3 pièces. Bon, mais on voit, et évidemment tout ça c'est parcouru par des ruelles, certaines droites en éventail, d'autres avec des angles. C'est évidemment davantage comme ça, c'est comme ça et pas comme ça que je m'imagine maintenant l'intérieur de ce site. Alors, le site a donc servi, disons, de site test pour la méthode d'étude très économique sans fouille. Je dirais qu'il a servi aussi de cobaye pour des schémas interprétatifs que Tolstov affirme avec beaucoup de vigueur dans les pages qu'il consacre à ce site, dans Drevni Khorezm, et qui aujourd'hui paraissent quand même bien vieillis. Alors, ces schémas, j'en distinguerai trois. Le matriarcat, la société duelle et le culte du feu. Alors, commençons par le matriarcat. Comme je l'ai dit donc la dernière fois, Tolstov, la culture anthropologique de Tolstov, c'est la vulgate anthropologique du marxisme, formulée par Engels, puis par Staline, les références sont du XIXe siècle, c'est avant tout l'anthropologue américain Morgan. Et Morgan a beaucoup écrit sur la survivance du stade de la communauté primitive dans des sociétés plus évoluées. Alors pour lui, l'une de ses survivances, c'est le matriarcat. Alors Tolstov croyait beaucoup aux survivances matriarcales, Et il envoie la démonstration dans, justement, la structure de Jambaskala. Partons d'un calcul simple. Si chaque cellule... des cellules d'habitation, il y en a 400, à peu près 200 par bloc de part et d'autre de la rue principale. Si chaque cellule a abrité une famille nucléaire, papa, maman, les enfants, disons, chaque cellule fournit à peu près un homme en état de porter les armes. Bien. Ça fait donc 400. Bon. Avec 400 hommes, on ne garnit même pas la totalité d'un mur, vu le nombre des meurtrières. Conclusion tirée par Tolstov, les femmes prenaient part à la défense. Tout ça, c'est très astucieux, parce qu'il ne part pas complètement dans le vide. Les auteurs antiques notent le rôle militaire des femmes dans certaines sociétés scythes, notamment les massagètes. Or, Strabon dit que les Corasmiens sont une branche des massagètes. Tout ça marche très, très bien ensemble. Voilà. Alors, que dirait-on aujourd'hui ? Que dirait-on aujourd'hui ? Je ne sais pas si ça s'est dit, mais en tout cas, moi, c'est ce que je serais tenté de dire. C'est que, on l'a vu l'an dernier avec Campyr Tepe, avec d'autres exemples, ces innombrables archères qui garnissent les murs d'Asie centrale, on n'a pas à les imaginer comme complètement garnies. Elles ont un rôle dissuasif. Tout simplement, l'ennemi, ce qui est important, c'est comme quand on met une alarme dans sa maison, c'est pas l'alarme qui va servir à quelque chose. C'est le fait que le cambrioleur potentiel sait qu'il y a une alarme. Avec des murs garnis de multiples meurtrières, l'ennemi ne saura pas de laquelle une flèche va sortir. Et donc, il va être obligé de traiter de l'extérieur chaque meurtrière comme un danger. Voilà. Donc, c'est évidemment plutôt comme ça qu'on verrait les choses aujourd'hui, et on n'imaginerait pas, 2000 hommes garnissant ces murs. Alors, Une autre survivance de la communauté primitive sur laquelle avait insisté Morgan, et là-dessus Engels a aussi beaucoup écrit, c'est le caractère bipartite des communautés. En gros, un certain nombre de communautés sont divisées en deux segments qui n'ont aucune relation matrimoniale, soit plutôt dans chaque segment donné, il y a des sous-segments, et chaque sous-segment sera en relation matrimoniale avec un sous-segment de l'unité d'en face. Voilà. C'est vraiment le système des... Le segment A, le segment B, et à l'intérieur, il y a petit 1, petit 2, petit 3. Alors, les gens du segment A, petit 2, ne se marieront et ne donneront leur fille en mariage qu'à des gens du segment grand B, petit 3. Bon, voilà. C'est le schéma proposé par Morgan, et Engels lui-même a écrit là-dessus. Et Tolstoï y croyait. Alors là encore, il y croit et il va chercher des confirmations archéologiques. Quand on cherche des confirmations archéologiques avec une idée préconçue, en général, on les trouve. Et là, ce qu'il a trouvé, c'est que les briques crues, portent des marques de brigades, des signes féodois. Alors ça, c'est extrêmement répandu partout en Asie centrale. À la période grecque, il s'agit de lettres grecques, c'est ce que nous avons à Samarcande. Aux périodes pré-grecques, ce sont des signes géométriques, conventionnels. Alors, il a fait une étude très soigneuse des marques de briques et a constaté que ces marques se regroupaient en... Enfin, qu'il en distinguait, je crois, une quinzaine... Mais ça forme des sous-ensembles, et en fait, dans un mur donné, on va avoir, trois, quatre types de marques, et dans un autre mur, on n'aura pas les mêmes types de marques. Donc, la conclusion qu'il en tire, c'est que les remparts sont construits par les gens qui vont habiter ou habitent déjà le massif d'habitation qui l'ajuste. Et en fait, donc, il arrive à distinguer deux groupes de marques de briques correspondant aux deux segments de la ville. Donc, il y a véritablement à la fois, donc, non seulement l'habitat, mais la responsabilité de la défense sont partagées en deux. Alors... Il pense que les témoignages sur l'Asie centrale du Moyen-Âge contiennent des indices sur la persistance de sociétés duelles. Et pour ça, il invoque notamment les témoignages des géographes arabes du Xe siècle, qui effectivement notent que dans un certain nombre de villes, notamment Samarcande, ça c'est dans Moukaddassi, la population est divisée en deux groupes. Et alors là, ces groupes sont structurés par des affiliations sectaires. C'est-à-dire que soit il y a une moitié chiite, une moitié sunnite, soit plus fréquemment, il s'agit d'affiliations à tel ou tel mouvement, à telle ou telle lignée soufie. Et souvent, ça marche par deux. Bon. C'est quand même... constater ce fait est une chose, y voir la survivance des sociétés duelles à moitié endogame que décrivait Morgan, c'est quand même aller beaucoup plus loin. Ceci dit, il ne faut pas non plus définitivement renoncer à faire ce genre d'hypothèse. Nous constatons par exemple qu'à Penjikent, Pavel Lourier l'a encore récemment rappelé, il est assez frappant de voir que dès le début de la ville, début à la fin de la ville, il y a deux temples qui sont l'un à côté de l'autre, où visibles, qui servent, il n'y a pas d'autres temples dans la ville, et on décèle des spécificités cultuelles dans chacun des temples. Il y en a un qui semble être plutôt zoroastrien, ou disons abriter un culte aux divinités zoroastriennes, et le deuxième, on n'y voit que des images en rapport avec la déesse Nana, qui n'est pas originellement iranienne, qui est en fait la mésopotamienne Nana Ishtar. Donc là, effectivement, l'idée peut surgir, et elle a surgi dans la littérature sur Penjikent, d'une structuration de la communauté urbaine en deux blocs qui auraient eu chacun leur propre dévotion. Bien. Bon, enfin, ceci dit, c'est quand même, tout ça nous mène, dans le cas de John Bascala, tout ça nous mène quand même assez loin de la réalité du terrain. Bon, moi, quand je regarde ce plan, je ne vais pas chercher nécessairement des histoires de matriarcat ou de société duale. Moi, je vois une caserne. Et je vois une caserne, je la vois d'autant mieux que maintenant, nous avons encore une fois l'exemple de Kampir Tepe, qui est la seule ville moyenne d'Asie centrale à caractère exclusivement militaire qui ait été fouillée. Et on voit qu'on a un faciès qui rappelle ça tout à fait, des petits groupes de deux ou trois pièces, structurés en micro-quartiers, ils ont cuisine commune, avec parcouru par un réseau de rues. Alors, dans le cas de Kampir Tepe, je l'avais dit l'année dernière, c'est très sophistiqué, c'est planifié depuis le début, parce que chaque ruelle, si vous regardez bien, va directement à une tour. Donc, cet urbanisme est vraiment fait pour une efficacité militaire maximale. Je verrai la même chose à Djambascala. Pour moi, Djambascala, c'est le fort, ou plutôt l'un des forts, c'est celui qui nous est parvenu, il y en a évidemment eu d'autres, du royaume du Khorezme face au front de la steppe. Alors, j'ai mentionné une troisième grille interprétative de Tolstoï à propos de ce site, c'est le rôle social du Temple du Feu. Je l'ai dit, Tolstoï admettait tout à fait le rôle important du Khorezm dans l'histoire primitive du zoroastrisme. Il y a reconnu, et lui et surtout ses successeurs, y ont reconnu beaucoup de sanctuaires du feu. Et l'archétype de ces sanctuaires du feu du Khorezm, c'est celui qu'on a reconnu ici à Djambascala. Je vous montre tout de suite sur quoi repose l'évidence. Elle repose sur cela. Bien. Mais c'est pas la chose ne doit pas forcément être appréciée d'une manière complètement négative. Vous voyez déjà que la restitution axonométrique générale du site fait partir une prometteuse fumée de ce petit édifice au bout de la rue. Voilà, ça sent déjà le temple du feu. Bon. Alors, Tolstoï, à propos de Djambascala, ne parle pas vraiment de temple du feu. Habilement, il emploie une autre expression qui est maison du feu, Dom Ognia, ce qui reprend exactement l'expression qu'emploie Biruni pour les temples du feu. Il n'emploie pas le mot temple. Il emploie, peut-être parce que le mot temple, en contexte islamique, est forcément lié à un contexte très négatif. Et, or, Biruni décrit des choses qui existent de son temps. Il emploie Beit, la maison, Beit al-Niran, les maisons du feu du Khorezm. Biruni mentionne notamment qu'au Khorezm, lors de la fête. Non, c'est plutôt en Sogdiane. Lors de la fête de Mitra, les gens se réunissent et festoient et banquettent dans une annexe du Beit al-Niran, de la maison du feu. Bon. Alors, voilà, pour Tolstoï, c'est évidemment l'édifice au bout de la rue. Alors, cet édifice se compose de quatre pièces. Vous avez ici une assez grande cour de 120 mètres carrés qu'on a trouvée complètement. Enfin, ce n'est pas une cour en fait. Il pense que c'est une pièce en réalité, mais bon, moi, ça me paraît quand même grand pour une pièce où on n'a pas trouvé du tout de base de piliers. Littéralement, on l'a trouvé jonché de vaisselle et d'ossements d'animaux. Donc, c'est très clairement un endroit où on banquetait. Par ailleurs, on a donc la pièce 1 qui est donc située latéralement. Alors, il n'a pas fait apparaître de communication entre la cour et le reste, peut-être n'a-t-il pas pu la trouver. La pièce 1 est une pièce allongée qui a connu trois états d'existence successifs. Tout ça, évidemment, donc, dans la période, disons en gros, deuxième siècle avant, peut-être premier siècle après, avec une banquette tout autour et au centre, un massif de maçonnerie en briques crues, trouvé très usé. Il a donc interprété cela comme le sanctuaire du feu. C'est des choses qui sont... Il est assez difficile de se former un jugement définitif là-dessus. Une catégorie d'hôtels du feu, de supposés hôtels du feu d'Asie centrale, qui a récemment été décrédibilisée, c'est le supposé hôtel du feu mural, la niche dans le mur. Ça ne va pas de toute façon avec ce qu'on sait du culte du feu zoroastrien, où il faut pouvoir tourner autour du feu dans tous les sens. Il y a toutes sortes d'arguments déjà anticipés par Paul Bernard en 1980 et repris récemment par Pavel Lourier dans un article dont qu'il a résumé lors de sa première conférence, de sa deuxième conférence, première conférence, deuxième conférence, montrent que ce sont véritablement des installations de chauffage. C'est évidemment plus délicat de faire un sort à ce type d'installation où là, le foyer se trouve au milieu de la pièce, ce qui est effectivement le cas des temples du feu. Bon. Alors, dans l'hypothèse de Tolstov, le feu permanent brûlait sur cette plateforme, il aurait brûlé dans un vase métallique, comme dans les temples zoroastriens modernes. Alors, il trouve un argument supplémentaire dans le fait que sous le sol, supérieur, il y a trois sols successifs, on a trouvé une couche de cendres qui était répandue. Or, dans les temples du feu, encore aujourd'hui, on ne jette pas les cendres. On garde les cendres parce qu'elles sont utilisées dans la préparation d'un certain nombre de breuvages. Elles ont une utilisation rituelle. Les assemblées que décrit Biruni à l'occasion des grandes fêtes zoroastriennes, et que nous décrit encore Mary Boyce dans les années 1960 à propos des zoroastriens des campagnes de Yazd, ce serait tenu évidemment dans cette grande cour ou pièce. Je note tout de même que les assemblées religieuses dont nous parle Mary Boyce ne se tiennent pas dans le Temple du Feu ou dans une annexe du Temple du Feu. Elles se tiennent chez des particuliers. Le prêtre vient, il célèbre le rituel, etc., mais ce n'est pas dans le temple que les gens se réunissent. Tolstov évoque par ailleurs une coutume qui existait à son époque encore chez les Tadjiks des montagnes, c'est la maison du feu, la même expression, Alaohana, qui, en fait, dans chaque village, il y avait une espèce de... une pièce chauffée qui servait à la fois de lieu de réunion à la communauté des hommes, mais aussi d'hôtellerie pour le voyageur de passage. Alors, il verrait ça ici. Bien. L'hypothèse du Djambaskala, temple du feu, a été reproduite indéfiniment dans les publications, jusqu'à ce beau jour de 1980 où Paul Bernard, dans un article dont j'ai déjà parlé l'année dernière, c'était en fait le compte-rendu très détaillé de la publication de la fouille de Dalverzin Tepe, en 8 pages, a entrepris d'exécuter les chapelles domestiques et les temples du feu privés d'Asie centrale. Alors, je cite... Je cite ce qu'il écrit sur Djambaskala parce que c'est un modèle, disons, c'est un modèle de critique lucide des données. Voilà. Je cite ce qu'écrivait Paul Bernard. On n'a jamais mieux que lui exprimé les données du problème. On sait qu'en raison de leur porosité, j'aurais presque envie de lire avec l'accent de Paul Bernard, mais je ne vais pas le faire. On sait qu'en raison de leur porosité, cendres et charbons sont parfois utilisés en substrat pour faciliter l'assèchement des sols étendus par-dessus ou pour constituer une couche isolante. C'est ce que l'on a à Djambaskala, dans un édifice que Tolstov décrit comme un temple du feu. Le sol du troisième et dernier état avait été construit par-dessus une épaisse couche de cendres de tamaris. Là encore, la couche de cendres est l'argument majeur sur lequel repose l'hypothèse d'un temple du feu. Mais comment expliquer alors que sous le sol du second état, on n'ait point constaté la présence de cendres, qui aurait dû pourtant s'y trouver si, comme le suppose Tolstov, le local en question avait bien abrité un autel du feu et qu'on en eût répandu les cendres sur les différents sols. Quant au supposé autel du feu, représenté par un massif de maçonnerie très ruiné au milieu de la pièce, il se signale par une absence totale de traces de feu. Il est vrai que cette particularité étonnante ne fait que renforcer Tolstov dans sa conviction. Il l'explique par le fait que le feu sacré devait être contenu dans un récipient métallique. Rien de tout cela ne me paraît bien convaincant, et je doute fort pour ma part que l'édifice de Djambaskala soit un temple du feu. Bien. Si ce n'est pas un temple du feu, qu'est-ce que c'est ? Alors, y a une pratique sociale bien connue en Iran et en Asie centrale, qui pourrait tout à fait en rendre compte, c'est ce qu'on appelle le sandali ou le korsi. En Iran, on dit, je crois, zire korsi. Et bien, tout simplement, quand il fait froid, on couvre les braises de cendres, on laisse les braises tout de même vives, et on s'allonge sur une banquette autour avec une grosse couverture, enfin, on met une protection donc, sur le foyer, et on met une grosse couverture que chacun va tirer à soi. Bien. C'est la clé du proverbe persan. 10 derviches peuvent dormir sous une seule couverture, mais un royaume est trop petit pour 2 frères. Voilà. Et évidemment, quand on voit ça, on se dit, ben c'est l'hôtellerie du fort. Peut-être c'est la demeure du commandant de la place. Et comme tout personnage important qui se respecte en Asie centrale, il doit avoir la possibilité de recevoir des hôtes. Bon, et d'ailleurs, ces fameuses maisons du feu des Tadjiks des montagnes, est-ce que ce sont forcément d'anciens temples du feu ? Je n'en suis pas du tout persuadé. Ce serait tout simplement cela. Cette hypothèse de la pièce hôtelière munie d'un dispositif de chauffage qui peut servir à plusieurs personnes, on a été amené à la faire, notamment avec les châteaux fouillés par Margarita Filanovic dans l'oasis de Tashkent, ce qu'on appelait autrefois le Tchatch, où elle a systématiquement, toujours d'après l'exemple donné sur Djambaskala, interpréter tout ça comme des sanctuaires du feu. Depuis 20 ans, dans des discussions fort amicales, je m'efforce de la persuader que ce sont des pièces hôtelières. Bon, chacun reste fermement sur ses positions. Je dirais, ce sont les données du problème. La solution n'est pas complètement évidente. L'idée d'un sanctuaire du feu, je ne l'exclus pas. Je ne l'exclus pas puisque on a depuis peu des indices dont je serai amené à parler dans mes cours suivants, des indices extrêmement forts de ce que, disons, au moins au niveau étatique et officiel, la religion du Khorezme, au moins depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, est le zoroastrisme. Voilà, donc ça pourrait être effectivement, ça pourrait être cela, mais encore une fois, sur des restes aussi mal conservés, il faut se donner la possibilité, il faut éviter les interprétations univoques. Il y a des temples du feu en Asie centrale, mais on peut vraiment le dire quand l'état de conservation est tel que pratiquement on peut entrer et célébrer le rituel. Et on voit, les restes parlent d'eux-mêmes. Il est évident que la chambre à hôtel central qui a été trouvée à côté de la cella d'un des deux grands temples de Penjikent est un temple du feu. Là, il n'y a aucune espèce de doute à avoir. Dans des cas comme celui-là, alors l'argument de la couche de cendre, effectivement, je dirais, il me paraît assez faible, d'abord pour les raisons que donne Paul Bernard, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait proposer une explication purement fonctionnelle et architecturale, c'est le vide sanitaire chez nous, c'est la couche isolante qui évite la remontée de salinité et d'humidité, et parce que dans les cas où on a véritablement des vrais temples du feu, comme ceux qu'on observe encore aujourd'hui, ceux qui existent encore aujourd'hui, ou ceux que archéologiquement, enfin ça a été observé notamment à Surcotal, où là on a en annexe un véritable temple du feu, on recueille les cendres, mais on les répand pas. On les stocke dans une pièce parce qu'elles vont servir. Ça ne sert à rien de stocker des cendres qui vont servir à la préparation de breuvages sacrés si c'est pour les répandre sous le sol. Voilà. Donc là l'argument peut être considéré comme faible. Avant de vous quitter, je vais maintenant passer... J'avais annoncé que pour cette période vraiment fort intéressante des 3e, 1er siècle avant Jésus-Christ, on a donc, vous entrevoyez déjà une très grande variabilité fonctionnelle entre les sites. On a vu donc un grand site aristocratique, disons, de tradition achéménide, qu'est la Ligyre. On a vu une caserne frontalière. Nous verrons à partir du cours suivant la capitale, parce qu'à partir de cette époque, on a vraiment une capitale au Khorezm. Avant d'en venir à la capitale, puisqu'on va rester dans le domaine des influences extérieures qui se sont exercées sur le Khorezm à cette époque, on avait donc vu à Kalalegir l'influence achéménide, à Djambaskala, disons, la possibilité d'une inscription du culte zoroastrien dans la morphologie urbaine. Et puis, on a deux sites très curieux, tout à fait en limite méridionale, en position frontière. L'un qui s'appelle El Haras, vous voyez ici, c'est vraiment le plus au sud de la zone irriguée du Khorezm. Juste après, en fait, ici, on est déjà à Boukhara, on tombe en Sogdiane. El Haras et un autre site qui s'appelle Kalajik Tepe, mais qui ne figure pas sur cette carte, mais qui se trouve en... Voilà, c'est ce site-là. C'est ce site-là. Également en frontière méridionale, on a des indices d'une influence grecque. Alors, Kalajik Tepe, c'est un petit fort de 2 hectares, fouillé en 1990, très mal conservé. Il ne mériterait aucune espèce d'attention particulière, si ce n'est que c'est l'endroit le plus au nord en Asie centrale où on a retrouvé des ornements de tuiles, des ornements de toit à la grecque. C'est ce qu'on appelle des antéfixes. Alors voilà, le modèle à Aïranoum, c'est ce qu'on appelle l'antéfixe à palmette. Il y a deux types d'antéfixe. Il y en a une à volute et il y en a une à palmette. Ça, c'est le type de l'antéfixe à palmette. Alors, qu'est-ce qu'une antéfixe? Tous ceux qui sont allés en Grèce le savent. C'est ça. C'est un élément, c'est une tuile de bord qui est donc techniquement un imbrex. Hein, c'est la, c'est la tuile couvrante, arrondie, mais qui a un panneau ornementé à la face antérieure portant un décor, et c'est ce qui orne le bord des toits. Et ensuite, on a donc le jeu normal des tuiles. Alors, à Iranoum, il semblerait qu'on se contentait d'une bordure de deux rangées de tuiles, sauf dans le cas d'un bâti, d'une chapelle du temple où peut-être il y aurait eu là une couverture complète. Alors, on n'a jamais... Ça, c'est vraiment la marque, c'est la carte de visite des Grecs. Les antéfixes ont été imités après eux, mais pas pendant très longtemps. On trouve des imitations encore au 1er siècle avant notre ère, dans des sites bactriens, et plus après. Et voilà, à El Haras, dans un contexte d'ailleurs bouleversé, hein, elles n'ont pas été trouvées en position d'origine, on a des imitations d'antéfixes. Qui rappelle, on reconnaît encore le modèle de l'antéfixe à palmette. C'est assez proche des imitations qu'on a. Enfin voilà, ici voilà une imitation d'antéfixe qu'on a à Alverzin Tepe, dont j'ai parlé l'année dernière. Ça c'est dans un niveau du 1er siècle avant, 1er siècle après. Après ça disparaît. Alors vous voyez, ça fait un peu, à peu près l'intermédiaire du point de vue de la dégénérescence entre le modèle grec et ce qu'on a donc à El Haras. Bien, à El Haras, à Kalajik Tepe, excusez-moi, Kalajik Tepe, dont j'ai dû indiquer le nom ici. Voilà. C'est un mystère. Pourquoi là ? Ça ne s'est jamais retrouvé nulle part au Khorezm. Pourquoi est-ce que quelqu'un à Kalajik Tepe a voulu habiter dans habiter dans une maison ou un fort, ça ornait peut-être un sanctuaire, mais enfin, quelqu'un a voulu que ça ait une petite allure grecque, hors de toute domination politique passée ou présente grecque. Évidemment, le fait que ce soit juste à la frontière est à prendre en compte. Alors, est-ce qu'il y aurait... l'hypothèse a été faite, hein, Est-ce que ce serait tout simplement un emporium des Grecs? Les Grecs seraient venus jusque-là pour trafiquer avec le Khorezm. Mais ces imitations grossières ont pu être faites à l'époque même où les Grecs dominaient plus au sud. Mais ça peut être aussi l'époque post-grecque. Est-ce que c'est, l'indice, enfin, le souvenir d'un prestige culturel attaché au mode de vie à la grecque qui aurait pu influencer des seigneurs locaux habitant en périphérie méridionale du Khorezm? Alors, le problème va se poser d'une manière encore plus éloquente avec un autre site dont je vais vous parler au début de la prochaine séance, magnifiquement conservé, enfin, à l'époque de la fouille, aujourd'hui disparu sous un barrage, s'appelle El Haras, qui est tout au sud du Khorezm et où, comme vous allez pouvoir le constater, on a des éléments de sculpture peints de type hellénistique. Voilà, donc j'évoquerai ce site la prochaine fois. Avant d'aborder le cœur du problème pour cette époque antique, c'est-à-dire la grande capitale qu'on est en train de fouiller à Akçakhankaya, je ferai un sort encore à un autre site qui pose des problèmes, de très grands problèmes fonctionnels, et qui est un des sites les plus connus, mais aussi les plus énigmatiques de tout le Khorezm, qui est Khoïkhrilganqala. Et vous voyez, encore une fois, comme le dit très bien Minardi, la norme, c'est la diversité. Je vous remercie.